On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Niagale Bagayoko, président de l'African Security Sector Network. Bonjour Niagale.
Bonjour.
Et avec Anne Corpet, chroniqueuse internationale à France 24. Bonjour Anne.
Bonjour Raphaël.
Au sommaire, le jour d'après en Syrie, où la transition politique est bien engagée par les ex-rebelles. Même le parti Baas, le parti historique de Bachar el-Assad, dit soutenir la phase de transition. L'ancien leader syrien, lui, est exilé en Russie, mais Moscou refuse de confirmer le lieu où il se trouve. Et puis Volodymyr Zelensky, pas du tout convaincu par l'idée d'un cessez-le-feu réclamé par Donald Trump, le président ukrainien relance même l'idée d'un déploiement des troupes européennes sur son sol. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est la nouvelle image du jour, après un week-end qui n'en a pas été avare, il faut bien le dire. Moins de 48 heures après le renversement de Bachar el-Assad, l'homme au crâne dégarni en costume bleu sur ces images est le désormais ancien Premier ministre Mohamed al-Jalali, venu parler transfert du pouvoir au nouvel homme fort syrien, le chef des rebelles du HTC, Abu Mohamed al-Jolani. C'est lui qui tient dans ses mains la destinée du pays aujourd'hui, lui dont tout le monde attend de savoir quelles sont ses intentions. Jean Barrère lève un coin du voile et nous retrace son parcours.
Abu Mohamed al-Jolani, accueilli en héros dans les rues de Damas. Le chef du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham depuis 2017 est l'artisan de l'insurrection. Et c'est depuis un lieu symbolique, la mosquée des Omeyyades, qu'il salue sa victoire.
Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour l'ensemble de la nation islamique. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour la région.
Aujourd'hui revêtu d'un treillis militaire, il veut lisser son image de radical. Lui qui a été membre de groupes terroristes, parmi lesquels l'État islamique et Al-Qaïda. De son vrai nom, Ahmed al-Shara, il a grandi dans un quartier cossu de Damas. Lors de l'invasion américaine en 2003, il se rend en Irak. C'est là qu'il rejoint Al-Qaïda et se rapproche de son leader, Abu Musab al-Zarqawi. Emprisonné par les Américains durant 5 ans et libéré en 2008, il rejoint l'État islamique en Irak, puis fonde en 2012 le front al-Nosra de retour en Syrie au début de la guerre civile. Il refuse d'être adoubé par Abu Bakr al-Baghdadi, futur chef de l'État islamique, et veut troquer l'image d'islamiste radical avec celle de rebelle. Il déclare ainsi par exemple ne pas viser de cible en Occident. Les États-Unis classent néanmoins le HTC comme organisation terroriste, plusieurs chercheurs estimant que cette transformation est de l'ordre de l'opportunisme plus que d'un réel changement idéologique. Mais depuis le début de l'insurrection, Jolani se veut magnanime, comme dans cette déclaration lors de la prise de Homs.
Nous vivons les derniers moments de la libération de la ville de Homs, cet événement historique qui distinguera la vérité du mensonge. Nous exhortons nos frères du djihad à faire preuve de bonté envers la population, à accorder la sécurité à ceux qui ont abandonné leurs armes et à ne pas poursuivre ceux qui ont fui.
Lui qui se voit comme le futur dirigeant syrien tente de ne pas céder à un désir de vengeance. Lors de la capture de Damas, il a demandé à ses troupes et aux Syriens de ne pas s'approcher des institutions publiques, voulant privilégier une passation officielle.
Niagale, cette image de Jolani avec l'ex-premier ministre, mais aussi avec le premier ministre qui administre actuellement la province d'Idlib, qui est celle détenue maintenant par une dizaine d'années par les rebelles. Cela montre comment justement ce djihadiste al-Jolani s'est converti à l'exercice du pouvoir.
Oui, en tout cas, c'est l'image qu'il cherche à projeter, hein, à la fois auprès des Syriens et auprès de la communauté internationale. Ce qui est intéressant dans le parcours qui vient d'être décrit, c'est effectivement sa capacité à s'adapter à cette nébuleuse djihadiste qu'on a trop souvent tendance à considérer de manière globalisante et dont on voit très bien les nuances et tendances. Qui est très important dans son approche, c'est notamment le fait qu'il a rompu, notamment avec les centrales d'Al-Qaïda,
oui.
Puis...
Enfin, il s'est émancipé de Zarqawi, oui, il a dit non à Baghdadi.
Il a dit non à Al-Baghdadi, exactement. Il s'est éloigné pardon, oui. d'Al-Qaïda de manière plutôt amicale, enfin sans rupture aussi marquée qu'avec l'État islamique. Mais ce qui est intéressant, c'est que son désir, c'est de recentrer son combat sur le territoire syrien lui-même et d'abandonner la lutte internationale, transnationale du djihad. Ça, c'est très important, mais ce qu'on voit aussi dans sa réussite, c'est aussi le rôle de ses parrains, notamment de la Turquie, qui a joué un rôle majeur et qui, elle, est proche des frères musulmans, qui est en rupture avec ses qui sont en rupture avec ses approches salafistes. Donc, est-ce que son adaptation à l'environnement local et régional va aussi passer par ce nouveau choix doctrinal ? On peut s'interroger. En tout cas, on a clairement en face un animal politique qui, s'il n'est pas forcément opportuniste, sait saisir les différentes opportunités et qui a montré aussi, hein, dans la province d'Idlib, sa capacité à organiser un appareil de gestion d'un État proto-État de manière assez rationalisée et émancipée de, justement, ces approches djihadistes uniquement armées et combattantes.
Oui, axées sur la rébellion, disons,
exactement.
Pour l'essentiel. On a le souvenir, Anne, de talibans jurant la main sur le cœur lors de négociations à Doha, qu'ils avaient changé, qu'on ne les y reprendrait plus. Faut-il croire Joulani sur parole lorsqu'il diffuse cette vidéo juste avant la conquête d'Hama, prenant la tolérance envers les minorités?
Il faut le juger sur ses actes, et force est de constater que pour l'instant, il n'y a eu aucune exaction contre les minorités lors de cette descente fulgurante vers Damas.
Sauf, semble-t-il, contre les Kurdes des faubourgs nord d'Alep.
Mais ça, c'était par l'armée nationale syrienne, c'est-à-dire les forces syriennes qui sont pro-turques et qui ont démarré dans le sillage de l'offensive menée par le HTC. Le HTC, au contraire, a dit aux Kurdes en arrivant à Alep, on vous ouvre un corridor pour rejoindre le nord-est, votre sanctuaire. Non, pour l'instant, il fait preuve d'une grande maturité politique. Le fait qu'il s'adresse au Premier ministre sortant, au Premier ministre de Bachar al-Assad, ça montre qu'il a conscience qu'il a besoin des technocrates de ce pays pour tenter de le reconstruire, pour tenter de gouverner. Par ailleurs, il a montré à Alep, sitôt la ville prise, que sa priorité, eh bien, c'était de remettre en route. Les services de base, l'eau, l'électricité, de distribuer du pain à la population. Et à Alep, il a même été acclamé par les chrétiens, les chrétiens qui sont retournés ce dimanche à l'église à Alep.
Qui s'étaient placés sous la protection d'Assad pendant les années au pouvoir du dirigeant syrien, en tout cas pendant la guerre
qui
civile.
Ils ont montré ces derniers jours leur détestation du régime d'Assad. Oui. Et puis, je pense qu'il a tiré aussi les leçons de ce qui s'est passé. Vous me parlez des talibans, mais je pense qu'il a aussi regardé vers l'Irak. Et on a vu en Irak que la politique désastreuse de débasification totale qui a été menée par les Américains a jeté des milliers de fonctionnaires irakiens soudainement privés de leur emploi dans les bras des sunnistes terroristes,
de Daesh,
et notamment de l'État islamique. Ouais. Donc là, il y a quand même une volonté d'unir la Syrie. Après cinq décennies de tyrannie sanguinaire pendant lesquelles le régime de Bachar al-Assad a fait jouer les communautés les unes contre les autres, cette page ne va pas se tourner évidemment du jour au lendemain.
Le chef de la diplomatie britannique David Lammy a appelé à la prudence aujourd'hui en répondant aux députés britanniques aux communes. Écoutez.
This house will know. Cette assemblée sait que le groupe dont l'offensive a permis de repousser le régime, Hayat Tahrir al-Sham, ou HTC comme on l'appelle maintenant, est également une organisation terroriste prescrite au Royaume-Uni en tant qu'alias d'Al-Qaïda. Jusqu'à présent, HTC a rassuré les minorités d'Alep, de Hama et de Damas.
Hama and Damascus.
Il s'est également engagé à coopérer avec la communauté internationale en ce qui concerne la surveillance des armes chimiques. Nous jugerons les HTC sur leurs actes, en surveillant de près la manière dont toutes les parties au conflit traitent tous les civils dans les zones qu'elles contrôlent.
Israël, de son côté, a préféré ne pas attendre et a d'ores et déjà bombardé une centaine de sites aujourd'hui pour justement éviter que ces armes chimiques ne tombent, selon les termes des officiels israéliens, aux mains d'extrémistes. Une réaction sage dans le contexte actuel, Niagale Bagayoko. Ou une déclaration de guerre au nouveau pouvoir syrien.
Alors, il y a deux éléments, à mon avis. D'abord, le premier, c'est que ce qui se produit aujourd'hui est largement le résultat des suites du 7 octobre et de la politique israélienne qui a consisté à prendre pour cible ce fameux axe de la résistance coordonné par l'Iran et composé du Hamas, du Hezbollah. Et c'est notamment parce que le Hezbollah a été pris pour cible dans le sud du Liban, que les effectifs de ce mouvement, qui étaient déployés en appui au régime de Bachar el-Assad, il y avait apparemment environ 50 000 miliciens du Hezbollah, ont dû quitter leur position pour rejoindre le Liban, ce qui explique aussi largement l'effondrement de l'armée du régime qui n'avait pas les capacités elle-même de se défendre parce qu'elle était à la fois démotivée, sous-payée, hein, c'est important de le dire, avec de très nombreuses pertes qui avaient été subies notamment par sa composante majoritaire, issue de la composante alaouite. Donc ça, c'est le premier élément qui concerne Israël. Le deuxième élément, ce qui concerne les bombardements que vous évoquez, c'est à mon avis ce qui s'est produit en Libye, hein, qui interroge beaucoup sur la façon dont la chute d'un dictateur peut entraîner la dissémination incontrôlée de son arsenal militaire. C'est ce qui s'est passé hein, lorsque Kadhafi a été renversé. Toutes les armes, notamment légères et de petit calibre qui étaient en sa possession, étaient disséminées notamment dans la région du Sahel. Et donc, aujourd'hui, il y a effectivement, apparemment du côté d'Israël, mais sans doute de la part de l'ensemble des acteurs régionaux et internationaux, la conscience qu'il est absolument essentiel d'éviter une telle dissémination, parce que les armes en question sont en effet encore plus dangereuses. Hein. On parle quand même d'armes, donc ces fameuses armes chimiques au chlore, hein, qui ont créé tant de dissensions au sein de la communauté internationale, notamment cette fameuse faute américaine de la part de l'administration Obama, qui avait refusé, alors que la France notamment était prête hein, à une intervention contre le régime de Bachar el-Assad, les États-Unis s'étaient finalement retirés de l'intervention prévue pour empêcher l'usage de ces armes. Donc oui, je pense que c'est à ça aussi que réfléchit Israël.
C'est cela le risque, en fait, un État incontrôlable, une balkanisation de la Syrie, elle est déjà à l'œuvre, mais un État demain incontrôlable qui pourrait effectivement se saisir de ces armes qui ont déjà, il faut le rappeler, été employées. On se souvient de la route orientale,
la
notamment.
La route, absolument, en 2013, et cette ligne rouge franchie qui n'a appelé aucune riposte américaine, comme le rappelle Niagale. Pour revenir à Israël, moi, je voudrais dire aussi qu'on a quand même l'impression que Benjamin Netanyahou tire profit de la situation pour avancer ses pions sur le terrain.
Alors, effectivement, créer des fonds multiples. Hein.
Il a effectivement contribué, c'est évident, à l'effondrement du régime de Bachar en frappant le Hezbollah au Liban, mais en frappant aussi les positions du Hezbollah en Syrie, de manière intense depuis un an, 150 frappes sur le territoire syrien de la part d'Israël, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Là, Israël a aussi avancé ses pions sur le plateau du Golan et aujourd'hui, donc plateau annexé par Israël.
En partie, disons, depuis la guerre des six jours.
Et là, voilà. aujourd'hui, il est allé au-delà de la zone tampon qui était cadrée par un accord de 1974. Et Benjamin Netanyahou a déclaré ce soir que c'était une annexion éternelle. Annexion, il faut le rappeler, qui a été reconnue par Donald Trump, le président américain, qui prendra ses fonctions le 20 janvier prochain.
Ouais. Alors, il bénéficie d'une forme de mansuétude de ces islamistes parvenus au pouvoir à Damas, d'une certaine manière, grâce à son intervention, Benjamin Netanyahou, ou à celle des Israéliens. Ouais. On a vu des déclarations qui semblent attester d'une forme de À défaut d'une connivence, en tout cas d'une bienveillance.
Pour l'instant, je pense que la préoccupation des rebelles syriens, c'est essayer de construire cette unité qui a tant fait défaut à ce pays. Et il y a effectivement les sunnites, les chiites, les alaouites, les druzes, les kurdes, les chrétiens, et j'en passe. C'est un pays qui est aussi à genoux, qui est complètement défait par cette guerre et par cette tyrannie sanguinaire. 90% des Syriens vivent sous le seuil de pauvreté. Il faut les nourrir, il faut leur apporter de l'eau, de l'électricité. Sinon, la révolution va reprendre, la rébellion va reprendre. Et c'est évidemment cela, la priorité d'Al-Julani, même s'il est lui-même originaire, il faut le dire aussi, du plateau du Golan. Oui. Al-Julani, c'est un nom de guerre. Al-Julan, en arabe, ça veut dire le Golan. Le Golan. Il a d'ailleurs renoncé à employer ce nom de guerre.
Ça pourrait éventuellement être prémonitoire de futurs conflits avec Israël.
Ça pourrait en tout cas nourrir la propagande des mouvements djihadiste, qui pourrait lui dire Al-Julani, vous êtes bien gentil, mais regardez, votre position,
la souveraineté du Golan.
Votre position est dangereuse pour l'intégrité territoriale de la Syrie et vous devez agir contre l'ennemi israélien.
Autre acteur, vous l'évoquiez il y a quelques instants, c'est évidemment la Turquie, à qui on prête un rôle éminent derrière ces rebelles du nord-ouest de la Syrie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan l'assure, lui, son pays ne cherche pas à étendre son territoire en Syrie. Il a rouvert un poste frontière fermé depuis 2013 pour permettre le retour chez eux des réfugiés syriens. Écoutez.
Afin d'éviter les embouteillages et de faciliter la circulation, nous ouvrons également le poste frontière de Yayladagi au passage. Nous gérerons également le processus de retour volontaire des réfugiés d'une manière digne de notre histoire, de notre culture et de nos 13 années d'hospitalité exceptionnelle.
Permettre aux réfugiés de rentrer en Syrie, c'est cela sa seule préoccupation, Recep Tayyip Erdogan, Yagale Bagayoko?
Non, ce n'est pas la seule préoccupation, mais il faut se rendre compte que l'enjeu migratoire ou que l'enjeu des réfugiés est extrêmement prégnant en Turquie aussi. Alors, côté occidental, on considère que c'est une arme brandie par Erdogan d'ouvrir les frontières pour laisser passer les réfugiés syriens vers les pays d'Europe occidentale, notamment. Mais en réalité, il y a aussi en Turquie des tensions face à la présence de ces réfugiés syriens. Donc, en effet, la possibilité de leur offrir l'opportunité de regagner leur terre d'origine est évidemment intéressante pour Erdogan. Mais le calcul, à mon avis, qui est absolument majeur, il concerne le Kurdistan, en fait. Parce que...
Rojava, selon le terme employé par les forces démocratiques syriennes elles-mêmes,
exactement.
Voilà, quasi proto-État, disons.
Ce proto-État, en coupant, en reprenant le contrôle, un certain contrôle sur la frontière turco-syrienne, ce qui permet de couper en deux ce peuple kurde avec ses différentes ramifications. Donc ça, c'est un élément qui est extrêmement important.
Parce que c'est son cauchemar, c'est un Kurdistan c'est à la frontière
le Kurdistan
de la Turquie.
Exactement. Oui. Ça, c'est vraiment une préoccupation majeure. Et puis, il y a quand même, en termes géopolitiques, cette fameuse rivalité entre le nouvel Empire ottoman, puisqu'on parle de la politique d'Erdogan comme un nouvel ottomanisme, quelque part. Et il y a un fameux précepte qui dit, lorsque la Perse recule, c'est l'Empire ottoman qui avance. Oui. Donc, on est sans doute aussi dans cette problématique-là.
La tectonique des plaques,
mais qui va aussi certainement poser des difficultés avec le troisième acteur historique au Levant, qui est la Russie, qui se voit vraiment menacée dans sa présence, notamment militaire, dans la zone, et qui aura certainement des griefs qui perdureront vis-à-vis de la posture d'Erdogan.
Laquelle Russie a sans doute déjà dealé, comme on dit, avec le nouveau pouvoir syrien pour le maintien de ses bases.
Alors, Moscou dit discuter avec les autorités, les des nouvelles autorités syriennes.
Auquel, en tout cas, Moscou a autorisé d'abaisser l'ancien drapeau syrien pour hisser le nouveau dans l'ambassade syrienne à Moscou.
Oui, c'est-à-dire qu'ils tendent la main parce que ces deux bases militaires, l'une navale à Tartous et l'autre aérienne au sud de Latakia, sont essentielles. C'est le seul accès de la Russie à la mer Méditerranée. C'est une sorte de hub par lequel transitent les mercenaires, les armes, tout ce que les Russes envoient en Afrique, où ils déploient un certain nombre de forces. Moscou se dit surpris de l'avancée éclair, de la réussite de l'offensive, de l'absence de réaction de l'armée régulière. C'est une manière de se dédouaner du fait que la Russie n'est pas intervenue cette fois, parce que c'est elle qui a sauvé le régime de Bachar al-Assad en 2015 en pleine guerre civile. Cette fois, elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? Sans doute parce qu'elle n'avait tout simplement pas les moyens de le faire. Il faut rappeler que la Russie déploie aujourd'hui des soldats nord-coréens en Ukraine. C'est ça sa préoccupation majeure du moment, l'Ukraine. Et Bachar al-Assad était à Moscou quand l'offensive a commencé. Et d'après ce qu'on a entendu dire, il s'est fait un peu tirer les oreilles par Vladimir Poutine pour n'avoir rien fait pour reconstruire, réformer cette armée régulière. Et il se reposait, Bachar al-Assad, uniquement sur ses soutiens iraniens et russes qui n'ont tout simplement pas été capables de voler à son secours.
Vous voulez ajouter sur la Russie ?
Pour rebondir plus largement sur ce que dit Anne, il y a quand même dans ce qui se produit, dans cet effondrement du régime syrien, quelque chose qui rappelle beaucoup ce qui s'est produit précédemment en Irak et en Afghanistan, c'est-à-dire qu'on voit très bien que les appareils de sécurité, notamment, qui ne tiennent que grâce à l'assistance étrangère, n'ont pas d'avenir en réalité. Donc, aujourd'hui encore, où on considère que les accords de coopération militaire sont absolument centraux, ça doit interroger. En Afrique aussi, bien entendu.
Où la Russie, évidemment, tente d'imposer son influence par le soutien au régime.
Par le soutien au régime, et même d'une manière générale. On a bien vu que des années de coopération française ou européenne n'ont pas permis de construire des appareils de sécurité souverains. Je pense que cette expérience-là, irakienne, le démontre une fois encore. Donc oui, bien sûr, les partenaires internationaux sont essentiels, mais les dynamiques locales, institutionnelles, le soutien populaire aussi, parce qu'on avait quand même une armée avant tout constituée par les Alaouites, c'est extrêmement problématique dans un pays qui n'est pas un État-nation.
Et il y a un dernier mot, quand même, il y a une certaine ironie à entendre aujourd'hui Moscou dire « nous sommes en contact avec les groupes d'opposition syrienne ». Ce sont ces groupes que Moscou a bombardés sans relâche pendant de nombreuses années. Et d'ailleurs, il y a quelques jours encore, dans les médias officiels russes, ces groupes qualifiés aujourd'hui d'opposition syrienne étaient qualifiés, il y a quelques jours encore, de terroristes.
Et bombardés. À Idlib, bien moins d'une semaine.
Absolument. Donc, il n'est pas absolument sûr que ces rebelles du HTC et leurs camarades des autres divers groupes avec lesquels le HTC doit composer soient d'accord pour le maintien de ces bases militaires russes sur leur sol.
Que peut faire la Russie pour les maintenir en moins d'une minute ? Je ne sais pas si c'est possible.
Dernier élément, qu'elle peut faire pour les maintenir ? Est-ce que Bachar al-Assad ne va pas être une monnaie d'échange ? Parce que les déclarations, qui laissent à penser qu'il y a une désolidarisation très forte vis-à-vis de son régime, laissent entendre qu'il serait possible de livrer Bachar al-Assad au nouveau maître du pays. Ça n'est absolument pas à exclure. Après, est-ce que à l'inverse, on n'assiste pas avec le HTS à l'émergence d'un islamisme souverainiste aussi, avec ces mouvements souverainistes, nationalistes.
Un mélange de nasserisme
et de culture du califat. Ça peut être intéressant à regarder aussi. Donc ça signifierait la fin de la présence militaire russe.
Et l'hybridation donc de différents courants.
Il y a aussi des militaires américains en Syrie, il ne faut pas l'oublier. Et ils poursuivent, eux, leurs attaques contre
l'État islamique.
75 cibles de l'État islamique visées ce dimanche par les Américains. Et Joe Biden l'a répété, on restera, notamment dans cette région du Nord-Est, pour surveiller les camps où sont détenus les djihadistes de l'EI.
Les États-Unis, dit Anthony Blinken ce soir, déterminés à ne pas laisser l'État islamique se reconstituer en Syrie. Merci beaucoup, Niagale Bagayoko. Merci également, Anne Corpet. On va plus loin, c'est terminé, mais on se retrouve toujours dans l'essentiel dans 4 minutes.